Dans quelques instants, nous recevons le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien Brisebois, qui a annoncé la mise sous contrat pour 6 ans de Yanni Gourde. Bravo, Yanni. Un petit gars de Saint-Narcisse, 31 millions d'impoches au cours des 6 prochaines années. Benoît Brunet avec nous dans quelques instants et Ray Lalonde dans un premier temps, que vous pouvez également entendre sur son podcast quotidien Focus sur YouTube et SoundCloud. Et vous pouvez le lire sur Twitter également. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Ray, une affirmation imprévue dans notre conversation. Tu sais que j'aime ça, des fois sortir du cadre un peu. Mais j'ai l'impression qu'avec le début de saison que le Canadien connaît, sans anticiper ou faire de pronostics sur la suite, que ils ont réussi à rétablir le courant avec le public. Et ça, qu'est-ce que ça vaut pour une organisation qui, au début de son année, avait des sièges à vendre? Ça n'a pas de prix, ça.
Ben, c'est sûr que c'est très encourageant ce qu'on voit, parce que les gens, soudainement, ont un peu d'espoir. Il y a une certaine stabilité. C'est très positif. Et là, on croit peut-être au message que la cure de rajeunissement, Mario, puis cette reconstruction-là, elle va nous donner des bons résultats. Bon. On sait très bien que d'une année à l'autre, les choses peuvent changer. Mais pour le moment, c'est très encourageant. Est-ce que ça va se traduire rapidement ou immédiatement par des salles combles au Centre Bell? Non. Tu peux avoir une capacité samedi soir contre le Lightning. Une rivalité, c'est intense. Il y a beaucoup de Québécois des deux côtés. Mais déjà contre Buffalo, mardi prochain, j'ai regardé les billets. Beaucoup de billets à vendre encore. Beaucoup de billets sur le marché secondaire en bas de la valeur des billets. C'est un effort qui va prendre du temps, mais ils sont sur la bonne voie, sans aucun doute. Mais ça ne corrigera pas du jour au lendemain, Mario.
Non, je comprends, parce que les gens, la question va toujours être la même quand ils vont perdre un match et qu'ils vont risquer d'en perdre un deuxième. Ils vont se dire, est-ce que cette balloune-là, est-ce que c'est une balloune, est-ce que ça va péter, comme on s'est demandé par rapport à Vegas toute l'année passée. Alors, je comprends qu'il y aura toujours un certain scepticisme, et on disait, Mario et moi, tout à l'heure à la blague, touchons du bois, mais c'est sûr que ça aide. La victoire,
c'est
le meilleur remède.
C'est encourageant, puis c'est au-delà de nos espérances, sans aucun doute.
Dans le monde du sport. Un mot sur la LNH en Europe, avec entre autres le spectacle de Patrick Laine hier, 3 buts des Jets dans un match là-bas. Est-ce que tu penses que c'est de bonnes initiatives que d'envoyer tes équipes en plein milieu du calendrier régulier ou peu importe, en début de saison, comme ça, dans des marchés déjà conquis au hockey, mais peut-être moins en contact avec la LNH?
Ben, il y a deux angles à ça. C'est vrai que la Finlande est conquise. C'est vrai que dans les pays développés, comme la Russie, la République tchèque, la Suède, le hockey fait partie de la culture. Ils ont énormément de leurs joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale, Mario. Mais c'est quand même important pour les partisans de concrétiser et de voir en chair et en os c'est quoi les joueurs de la Ligue nationale. C'est quoi le produit? C'est quoi cette machine marketing? Alors, une fois par année, tu dois déplacer des équipes. Parce que sinon, les gens vivent avec une espèce d'illusion virtuelle que ça existe, mais on ne peut jamais palper, concrétiser puis toucher à ça. Là, ils ont eu la chance de le faire. Le problème là-dedans, c'est que quand l'événement se termine, ben ils plient bagages puis ils retournent aux États-Unis pour le Canada. Et là, ben il n'a pas de hockey de la Ligue nationale en chair et en os pour 12 mois. Alors, il n'y a pas de solution miracle à ça. Tu ne peux pas déménager des équipes, les placer là-bas pour faire en sorte qu'ils en aient toute l'année. Il y a des ligues pro qui existent déjà là-bas. Ils ne l'apprécieraient pas, Mario. Mais il doit y avoir plus que ça. Donc, on doit tenter de prolonger le calendrier de la présence physique de la Ligue nationale
plus
en Europe.
Ou un séjour plus long?
Soit une permanence administrative en bureau.
OK. Comme la NBA a fait à l'époque.
Comme la NBA l'a fait, comme la NFL l'a fait à Londres, le fait encore à Londres. Pour permettre à la Ligue nationale de continuer de faire des affaires quotidiennement avec les entreprises, les corporations, les diffuseurs télé, radio et médias numériques en Europe pour cultiver encore plus profondément la relation. C'est bon de jouer des matchs. Je ne critique pas la Ligue nationale. On l'a fait avec la NBA pendant des années. Mais à un moment donné aussi, tu dois en faire plus pour montrer que tu veux vraiment conquérir ce marché-là. Et finalement, je dirais, attaquez-vous à d'autres marchés où il n'y a pas, par exemple, il y a d'autres marchés secondaires. En Suisse, il y a eu des matchs cette année à Berne. Peut-être qu'il devrait aller en Lettonie. Peut-être qu'il devrait aller dans des endroits comme, en Slovaquie. Tu vois, des endroits qui n'ont jamais eu de match de la Ligue nationale pour leur permettre à ces partisans-là, eux aussi, de concrétiser cette relation-là avec la Ligue.
Pourquoi pas l'Angleterre, la France?
En France, il y en a déjà eu.
Oui,
en Angleterre aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu élargisses ton empreinte, si on veut.
Oui.
Puis c'est dur parce que chaque fois que tu joues un match ou deux, il faut que tu envoies deux autres équipes. Alors là, il y a beaucoup d'équipes qui se déplaceraient là-bas. Pense à ce que fait la NFL. Eux, ils ont dit, c'est à Londres puis nulle part ailleurs. Et on envoie...
C'est leur quartier général.
Exactement.
Là-bas.
On envoie 4-5 matchs par année là-bas. Et on va solidifier notre présence parce que on a conquis une ville, un marché, puis ça va se dérouler à Londres. C'est la façon que la NFL a décidé de
vraiment une bonne stratégie. Un mot sur l'impact de Montréal. On a procédé au bilan sportif cette semaine avec les joueurs qui ont été disponibles pour les médias. Ensuite, l'entraîneur Rémi Garde qui est venu nous voir, qui a rencontré des médias également. Quand tu regardes la situation de l'impact, sans tout ramener là, les propos de Joey Saputo, puis tu regardes vers l'avenir, on sait qu'il y a un défi d'avoir plus d'abonnés de saison. Apparemment que la réponse a été bonne de nous dire Richard Legendre récemment. Mais pour toi, là, si tu étais dans les bureaux de l'impact, quel est le meilleur conseil que tu peux donner à cette organisation-là? Savoir, oui, avoir une bonne équipe sur le terrain, mais comme organisation en prévision de la prochaine saison, à quoi ils doivent s'attaquer?
Sans rentrer dans le détail trop stratégique, Mario, je te dirais que ce qui manque à l'impact, c'est plus de marketing. Ce qui manque à l'impact, c'est d'être plus cimenté dans la culture des Québécois. C'est de faire les efforts physiques, en personne, se déployer.
Comme l'entraîneur le fait, je le souligne, oui, parce oui, qu'il y a un paquet de coachs. Mauro Biello s'est jamais déplacé en studio.
Oui, puis j'ai entendu Rémi Garde.
Rémi Garde, ça fait deux fois qu'il
absolument,
vient. Franchement.
Bravo.
Bravo, Mazan, bravo.
Mais les joueurs vedettes...
Puis a-t-il jamais venu?
...doivent se déplacer. Les joueurs vedettes doivent aussi être en province. Ça doit faire partie de l'entente. Si on veut cultiver un marché solide qui va soutenir ça financièrement, parce qu'on demande de l'argent aux gens. On demande aux gens de payer puis de remplir les gradins. Je vous rappelle encore une fois que la meilleure façon de mesurer le succès d'une équipe, c'est la valeur de l'équipe. Puis même si des fois on perd de l'argent, notre équipe prend de la valeur. Et actuellement, les valeurs de la MLS, des franchises de la MLS, dis-je, ben, à l'époque de l'Impact, il y a 5 ans, 40 millions. Aujourd'hui, c'est 175. Ça va être 200 dans quelques années. Ils sont à 28 équipes dans 2-3 ans. Déjà, Mario, c'est impressionnant. Alors, il faut admettre que c'est un bon investissement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'impact, si elle veut devenir plus populaire, ben, il faut faire des choses populaires.
Je nous ai gardé du temps pour un bloc que je considère, qui s'annonce très intéressant. C'est un sujet qui m'interpelle. Et toi aussi, Ray, je suis père d'une fille, j'ai 3 enfants. Ma plus jeune est une fille, elle fait du sport. Et en parallèle, je veux qu'on parle de la WNBA, la WNBA, 21 ans d'existence. Il y avait un papier fort intéressant. Les filles vont sortir de leur convention collective. Et en parallèle, ce que je veux faire à partir de l'expérience de la WNBA ou de la WNBA, c'est de savoir, est-ce qu'une petite fille de 10 ans, 12 ans, 15 ans aujourd'hui, ou même de 20 ans, peut rêver un jour gagner sa vie en jouant au hockey à la lumière de l'expérience du basket féminin professionnel. Le salaire moyen des filles dans cette ligue-là. Je sais que la ligue n'est pas rentable. La NBA qui la parraine perd beaucoup d'argent chaque année. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le sport collectif professionnel féminin?
Oui, il y en a. Ça prend de la patience. Ça prend du support public, communautaire et corporatif. Alors, on est obligé de faire un appel à la sensibilité, au cœur et à la générosité des entreprises et du grand public de supporter ces tentatives-là de former des ligues. La WNBA, j'étais dans la NBA en 1997, on a lancé cette ligue-là. Puis à l'époque, c'était comme « wow, la NBA, encore une fois, innove ». C'est sûr que c'est facile pour le basketball, tu peux pas lancer une équipe, une ligue de football professionnel féminin, football américain, si on veut, ça marche pas. Alors le basketball était bien choisi pour ça. Bon, ça fait 21 ans. En 2010, les assistances moyennes étaient à peu près de 7 500. Cette année, en 2018, ça a été de 6 700. Il y a une baisse. Les cotes d'écoute à la télé ont augmenté, en hausse de 36 % cette année. Alors, baisse des assistances, augmentation des cotes d'écoute. La business va bien, mais Adam Silver l'a déclaré, Mario, c'est à peu près 10 millions de pertes
par année.
Collectives par année depuis 21-22 ans. Bon, c'est beaucoup d'argent. Les propriétaires de la NBA à l'époque étaient propriétaires des équipes de la WNBA. Ils ne le sont plus. Il y a moins d'associations. Donc, on a trouvé des nouveaux investisseurs qui ont décidé d'acheter une franchise moins chère. Tout ça pour dire que les filles là-dedans gagnent un minimum de 50 000, gagnent jusqu'à 115 000 en salaire maximum et certaines vedettes, 150 000. Donc, forcément, tu peux gagner ta vie si tu joues au basketball professionnel dans la WNBA. Plusieurs des filles, pour terminer sur le basketball, jouent également en Europe à l'automne.
Ah, elles jouent dans deux ligues.
Et voilà. En été, printemps, été, WNBA, s'en vont en Europe pour poursuivre le basketball professionnel et gagner encore leur vie à jouer au basketball. C'est long comme carrière, comme saison. C'est dur physiquement, mais ça se fait.
Mais juste avant de se tourner du côté du hockey, rapidement sur le basket. Mettons, ça fait 21 ans. Dans 15-20 ans d'ici, penses-tu que ça va être implanté puis que le basketball féminin professionnel va être une business rentable, qu'il va y avoir des repêchages des athlètes, que la machine va, qu'on va avoir progressé? Et je t'en parle pour savoir si le hockey, si on peut faire une analogie, puis comment
si
qu'on
ça
peut
va
avancer.
Derrière, ouais, c'est ouais. Ça. Ben, moi, là, je te dirais que, honnêtement et modestement, je dirais que 10 millions de pertes, c'est pas mon argent, mais c'est 10 millions sur 12 équipes. Honnêtement, c'est pas très dramatique considérant les milliards qui rentrent dans les poches des équipes de la NBA. Et même si ce ne sont pas les mêmes propriétaires, les propriétaires d'équipes de la NBA sont propriétaires de la NBA qui est propriétaire de la WNBA. Donc, indirectement, ce sont tous des investisseurs. Moi, je pense que c'est du travail dur à cuire à chaque jour, chaque année, pour rentabiliser cette équation-là. C'est pas fait encore.
Ça va être plus difficile pour le hockey, tu penses?
Oh, ben
le hockey féminin?
Moi,
il y a
je
deux
pense que le basketball
ou
va se rapprocher de la rentabilité, mais ça m'étonnerait qu'il soit profitable. Au hockey, il y a deux ligues. La Canadian Women's Hockey League puis la National Women's Hockey League. Ce qui est problématique là-dedans, c'est qu'ils sont un peu compétitrices. Alors là, ils jouent une contre l'autre. Ils se concurrencent, les joueuses. Alors, tu as Marie-Philippe Poulin qui joue pour les Canadiennes, mais pendant ce temps-là, il y a des stars américaines qui jouent là-bas. Là, on a un problème face à face. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, Mario, dans cette ligue-là, pas la même chose. Les joueurs, joueuses peuvent gagner entre 2 et 10 000 $ pour 28 matchs, pour 16 matchs. Alors, pas du tout le même niveau encore, malgré le fait qu'on est tous complètement passionné, Canada-USA, en finale olympique.
Vois-tu le jour de nos filles de hockey, là, je parle là, de, bon, les joueuses des Canadiennes. Là, les joueuses de troisième trio vont gagner un 70 000 par année, un 100 000. Vois-tu ça arriver dans 15 ans?
Je suis obligé de dire pas à court terme. Non, ça, c'est trop d'argent. Étant donné, écoute, Mario, les assistances sont encore très modestes. On parle de 250-300 personnes par match. C'est difficile de faire de l'argent avec ça. Cependant, le produit est bon. Le niveau de jeu est bon. Les organisations sont solides. Il faudrait probablement, Mario, à court terme, fusionner les deux ligues.
Pour se donner une chance.
Pour se donner une vraie chance de réussir Canada et US. Élargir le cadre marketing, c'est-à-dire les commanditaires et les investisseurs. Mettre la programmation à la télé. Et faire un effort collectif de mettre en marché pour vendre plus de billets. Comme la WNBA l'a fait. La beauté, Mario, c'est que la WNBA a déjà créé la recette. Même si elle perd un peu d'argent, c'est quand même 7-8 000 personnes par match pour le basketball. On pourrait facilement...
Ah, c'est pas banal.
Ben non, pas du tout. C'est beaucoup plus que le hockey junior au Canada, en passant. Donc, il faudrait trouver une façon de fusionner les deux ligues, de travailler sur une grande stratégie de hockey féminin en Amérique du Nord, d'avoir plus d'équipes et devenir plus national géographiquement. Je pense que Faut être patient. C'est sur la bonne voie, mais on a du travail à faire.
Ray, merci beaucoup pour ce portrait de la situation du sport professionnel féminin. Je trouve ça bien intéressant. On se reparle la semaine prochaine.
Bien sûr,
bonne
fin de
semaine, mon ami. Dans un instant, Benoît Brunet qui revient sur cette soirée folle, un peu folle d'hier au Centre Bell.